vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 90. J'aime pas la guerre et les écrevisses. Ah, chers amis, bonjour. Mais vous savez qui c'est notre invité ce jour ? Car vous l'avez bien connu. C'est quelqu'un qui nous paraît tellement sympathique, peut-être parce que tellement banal, comme nous. Ce n'est pas quelqu'un qui cultive des carottes biologiques de 3 kilos ou qui a doublé sa fortune avec une activité de Frimberg. L'extraordinaire, c'est tellement de la fanfaronnade. Aujourd'hui, nous allons évoquer, bah oui, nos grands-pères, nos deux grands-pères. Alors, ils ont fait tous les deux la Grande Guerre, la guerre de 14-18. Et ils se sont rencontrés au mariage de leurs enfants. L'un habite à Russe, c'est un petit village alsacien à la frontière des Vosges, et l'autre grand-père habite à Wissembourg, petite ville alsacienne à la frontière de l'Allemagne. Ils ont donc tous les deux fait la guerre de 14-18, l'un dans l'armée française, l'autre dans l'armée allemande, enfin l'armée du Kaiser, et ils ont combattu tous les deux à Verdun, des soldats tout à fait ordinaires. La deuxième histoire de cet épisode 90 de l'émission, vous l'avez bien connue, sur Radio Judaïka Strasbourg, elle est aussi d'une belle simplicité. Ce qui ne veut pas dire insignifiante. C'est l'histoire d'un mari qui, après 20 ans de mariage, demande à sa femme de quitter leur belle maison parce qu'il se remet en ménage avec une petite jeune. Et l'épouse, délaissée bien sûr, elle pleure. Mais aussi, elle a envie de se venger. Et parfois, c'est tout aussi simple, un petit rien insignifiant. Alors vous allez voir, enfin, vous allez entendre, ou mieux, vous allez sentir, c'est tout drôle et très efficace. À chaque épisode, une musique. Un choix qui n'est pas une illustration de mes récits, mais qui raconte une autre histoire. Et alors aujourd'hui, Paganini, mais Paganini au piano. Oui, les caprices au piano, des études, des transcriptions du violoniste pour le plaisir. Alors c'est Liszt et Brahms qui ont fait ce travail de transcription. Et au piano, Evelyne Brancard, c'est une pianiste belge qui joue beaucoup aux États-Unis. Elle a enregistré ces étonnantes variations en 1997. Voilà, première histoire donc, la noce chez les petits soldats. Bon, le titre, c'est un clin d'œil à Brecht, hein. La noce chez les petits soldats. Quand ils sont rentrés de la guerre, tous les deux du village, ils n'ont rien raconté. Auguste, dans l'armée allemande, et Eugène, dans l'armée française, chacun rescapé de Verdun. À Russe, on était Vosgiens, Français, et après 1870, Alsaciens, Allemands. En 1919, il ne restait dans leur tête que les morts et peu de mots. Ils retournaient chacun dans sa guerre, qu'ils savaient pour les autres impossible à comprendre. Au front, on parlait le dialecte de son village, un peu d'argot des casernes, et pour les besoins des ordres et pour monter à l'assaut, le français ou l'allemand. Auguste et Eugène n'étaient pas frères d'armes. Pas question d'être amis, ce n'est qu'au café, et il y en avait un tous les 30 mètres, que parfois ils partageaient des canons. Le canon, c'est le rouge, et le schnaps, la chopine des tranchées qui coulaient aujourd'hui derrière leur accroche-cœur. Accroche-cœur, ce sont les décorations. Et des médailles quand on avait survécu au grade d'apprenti cadavre, le pointu, hein, l'allemand avec son casque à pointe, il en avait moins que l'autre, mais ce qui était normal puisque l'allemand, c'était le perdant. « Caput !» trinquait-on en levant le verre. moi pas caput. C'était pour demander grâce quand on tombait prisonnier. Ne me tuez pas. Personne ne ricanait lorsqu'un combattant faisait un pompier. Alors un pompier, c'est quand vous buvez toute la bouteille au goulot, d'un seul trait, vite. Vite probablement pour oublier, mais il n'oubliait jamais. Il devait la vie à des nouveau-nés. Et les nouveau-nés, ce sont les obus qui tombent à vos pieds et qui n'éclatent pas. Ils se marièrent, sans chercher bien loin, dans le village même à Russe, en 1926, la même année. Mais pas question d'inviter l'autre à la noce. En 1952, le fils d'Eugène épousa la fille d'Auguste. « Mais tu épouses la Boche ?» lui dit-on. « Non, j'épouse mamie. C'est mon cœur. C'est ma promise. » Alors, ils ne disaient pas « parce qu'on s'aime », mais ils étaient amoureux. Ils s'étaient retrouvés loin des yeux du village, sur les bancs de l'école d'instituteurs à Strasbourg. Il fallait un peu de témérité, et le curé de Russe les encouragea pour monter en procession vers la place des Tilleuls et pénétrer avec les deux papas dans l'église Saint-Étienne. Ils passèrent devant le monument aux morts, avec les noms de tous les soldats qu'on disait « morts pour la France », même ceux de l'armée du Kaiser. Au restaurant de la gare, alors c'est le meilleur du village, où les deux familles allaient partager le repas de mariage, on faisait comme si de rien n'était. Cela faisait déjà 35 ans, et il y avait eu tellement d'autres malheurs depuis. Et les deux soldats allaient bientôt être grands-pères. C'était donc une étude de Paganini par Franz Liszt. Alors, il faut jouer vraiment vite, hein, et je ne sais pas si les doigts vont aussi vite que sur un violon. Mais d'ailleurs, cette étude, elle est dédiée à Clara Schumann et elle est interprétée par Evelyne Brancard. Deuxième histoire de notre épisode 90 de « Vous l'avez bien connu » sur Radio Judaïque à Strasbourg. Je l'ai intitulée « À Brumath, coquillages et crustacés ». Alors cette fois-ci, c'est un clin d'œil à Brigitte Bardot. Alors vous savez qu'à Brumath, il y avait un restaurant fameux, l'Écrevisse. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, Chers auditeurs, écoutez bien mon histoire, vous allez adorer, elle est jubilatoire. Abrumate, coquillage et crustacé. Son mari la quitte pour une plus jeune et lui dit « Restons bons amis ». Il va garder la maison et lui propose beaucoup d'argent. Et comme c'est aussi la grosse crise, il hurle « Pour que tu dégages !» Cela se passe dans la jolie petite rue, en face de l'écrevisse Abrumate, l'hôtel-restaurant célèbre pour avoir accueilli Jean-Paul Sartre en garnison pendant la Drôle de Guerre. Et pour ses plateaux de fruits de mer, avec un nom pareil, c'est bien logique. En ce moment, il habite chez elle, chez la nouvelle, et c'est tout petit. Et elle, la vieille, elle est seule dans sa belle maison à lui, mais c'est elle qui l'a aménagée avec amour, bon goût et aveuglément pendant 20 ans. Elle aimerait bien y rester, mais ce n'est pas négociable. Il veut sa baraque. C'est lui qui payait les traites et la décoration, et elle est à son nom. Non ? C'est son dernier soir. Le salon au rez-de-chaussée est encombré de cartons avec ses affaires. Elle va chez sa sœur, où elle a déjà déposé 2 ou 3 meubles. Il l'a autorisée à les prendre. Le chien aussi, il veut bien qu'elle le prenne, mais finalement personne n'en veut, alors il a été largué ce matin à la SPA. Être une bête libérée, ce n'est pas si facile. Pour son dernier repas, ici, elle se fait livrer à domicile le fameux plateau de fruits de mer des amoureux, comme s'en vante la carte, car on déguste tout avec les doigts, les crustacés étant subtilement proposés aux bécoteurs comme les prémices d'autres bons moments. Elle se croit au cinéma, ses yeux panotent sur les objets qu'elle va nimber d'un halo mélodramatique dans sa mémoire. La lumière est diffuse, chaude par le reflet des grandes teintures qui masquent le vilain monde extérieur. Que l'on est bien chez soi. Et ce sera désormais chez lui. Désormais, on ne les verra plus ensemble. Il reste une poignée de crevettes dans l'assiette. Alors, petite idée, petite vengeance, petite blague, rien de bien méchant. Elle va grimper sur l'échelle qui lui a servi à vider les étagères et elle dévisse les embouts de chacune des tringles des beaux rideaux. Et allez, hop là, 2 ou 3 crevettes dans le creux de chaque barre et les embouts à peine revissés pour laisser passer l'air. C'est rigolo, n'est-ce pas ? Dernière nuit dans cette belle maison qu'elle regrettera tellement. Demain matin, la camionnette pour embarquer ses bouquins, ses petites culottes et les traces d'un bonheur qu'elle voudra vite oublier. Un dernier selfie devant la baie vitrée de la salle à manger. Elle fredonne « Capri, c'est fini, je n'y remettrai plus jamais les pieds. C'était la maison de mon bel amour, ici c'est fini. » Monsieur revient l'après-midi même avec sa nouvelle madame. Et elle est émerveillée par tant de beauté. Cette belle maison si bien agencée, le bonheur est à ses pieds, celle d'avant il devra l'oublier, et surtout sans crier Aline pour qu'elle revienne. Alors elle va apporter sa touche d'artiste au bonheur de leur jeune couple, un grand poster de Hooper et le sourire de Marilyn Varolisée. On bouge les meubles, on va repeindre la cuisine et acheter un plus grand écran pour la télévision. Au bout de 2 ou 3 jours, elle trouve que cela sent un peu le rance. Cette maison était mal aérée. Au bout d'une semaine, il y a comme une odeur. Alors elle va laver les sols qui en ont bien besoin avec un détergent qui sent bon. Au bout de 2 semaines, franchement, ça pue! C'est aigre et insidieux. Et quand on imagine que cela a disparu, eh bien cela revient plus fort. C'est fétide. Ce n'est plus une senteur, ce sont des effluves qui flottent dans toute la maison. C'est un remugle d'une vie passée, les miasmes d'un petit complexe de supériorité sur le cadavre de la vieille bique que son bel homme vient de chasser, l'air putride de la bataille terminée sur les relents de sa victoire. Plus concrètement, ça chlingue vraiment dans son nouveau chez-elle. Elle demande à la femme de ménage un récurage en profondeur de la cuisine, de la salle de bain et puis aussi de toutes les pièces, même si cela prend du temps. Peut-être un rat mort qui pourrit dans un coin. La maison est inspectée de fond en comble. Tous les meubles sont frottés et désinfectés. Ah, ça pue de plus en plus fort. On emprunte le chat d'un voisin. Le minou restera sans croquettes, enfermé à la cave pendant 48 heures. Si une souris puante était passée par là, elle aurait été de suite oxyse. On fait alors appel à une société de désinfection. Un technicien docte et savant se fait fort de détruire toutes les oothèques qui peuplent, c'est son diagnostic, chaque pièce de la maison. Ne trouvant pas de coque abritant des blattes ou autres cancrelats, il propose une mesure radicale, l'emploi d'un fumigateur répulsif pour diffuser un brouillard assassin à base de siphénotrine de la famille des pyréthrinoïdes, doublé par une application de DEET, le champion des récepteurs olfactifs. Ça a été mis au point par l'armée américaine, madame, alors vous pensez si c'est efficace? Après tout cela, je vous le promets, votre maison sera comme un jardin de roses, je vous demande pardon, Rose Garden, avec le soleil, il y a un peu de pluie parfois. Cela prendra 3 jours sans que vous ne puissiez rentrer. Oh ben, on va s'organiser, répond le nouveau couple qui garde un peu de dérision pour annoncer qu'ils vont se mettre au parfum à l'hôtel, pas très loin, tant pis pour les ragots. Les voisins compatissants disent « On vous plaint » avec la terrible angoisse que cela s'étende aussi chez eux. Eh bien non, aucune maison des alentours n'a ce problème de flagrance, personne ne ressent ce goût d'empyrème entre les 4 murs maçonnés. Ils sont pour le moment à l'abri de cet incertain, mais peut-être futur tourment. Il n'y a qu'une seule maison qui pue et qui continue à puer dès le lendemain du passage du technicien spécialiste en tueuse exhalaison. On cherche des solutions. Toutes les solutions. L'odeur maintenant est d'une acidité mordante, capiteuse et fourbe. On pense qu'elle vient de s'éclipser et elle est là, sournoise, un zéphyr rusé qui donne envie de vivre masqué. Internet fourmille de charlatans qui proposent des sacs de charbon actif en bambou exotique, des gels de destruction des molécules qui transportent les odeurs hors la loi, des purificateurs anti-acariens qui absorbent furtivement l'humidité, des badigeonnages avec un produit magiquement ésotérique qui s'avère être un mélange d'eau calcaire et de vinaigre blanc, peut-être mis au point par M. Trump. Il faut prendre une décision. C'est celle de laisser passer le temps et de s'installer ailleurs, jusqu'au printemps. Va pour la maison de campagne des parents de la jeune dame, qui menace, sans trop savoir comment, de représailles en raison de son martyr en tapinois. Elle a des migraines, la nuit des hauts le cœur et des coups de froid tout au long des journées puisqu'il faut vivre avec les fenêtres ouvertes. Partons ! Et pourquoi ne pas, pendant ce temps-là, louer les pièces du bas en Airbnb pour couvrir un peu les frais de ces dernières semaines embaumées ? Le soir même, les locataires téléphonent. Impossible de vivre dans votre salon, on se croirait au bord d'une décharge. Dès que l'on croit s'être habitué à l'odeur, le souffle du fumet reflue, le nez vous trahit, le malaise vous envahit. même désappointement avec une agence immobilière qui affronte les répulsions d'une cliente exaspérée et furieuse d'avoir été trompée. Les professionnels se donnent le mot. Aucune agence n'accepte de prendre la maison pour une location. Pour tout le monde, dans cette histoire, lâcheté est trahison. Il faut se rendre à l'évidence. Le beau mois de mai venu, l'odeur est toujours perfidement présente. Il faut vendre. Alors le prix est attractif, mais la rumeur rend la puanteur immédiatement notoire. On visite et l'on ricane. La maison peut-être qu'elle est maudite. Plus aucun client potentiel ne veut se déranger. Ils répondent tous « Oui, pour l'odeur, on sait !» Personne, même pour un prix de la moitié de la valeur. Vient le jour du divorce. Rendez-vous chez le notaire. La veille, monsieur appelle gentiment sa future ex-épouse. « Comment tu vas ? Et toi ? Alors on papote. Oh ben je me débrouille, mais tu sais, j'ai bien de la nostalgie et notre belle maison me manque tellement. » Alors là, monsieur prend la balle au bon. « Ah, mais tu sais que nous partons ? Oui, mon nouveau job, je dois vendre la maison. Si tu veux, ce serait un bon prix pour toi. »« Non, mais c'est impossible. Tu devines bien combien je n'ai pas d'argent. C'est impossible pour moi. » Alors, écoute-moi bien, entre nous, il ne s'agit pas de faire des affaires. Je te la laisse pour... Et il annonce une somme qui correspond à tout juste le tiers de la valeur de la maison. Tu ferais ça pour moi ? Mais oui, nous nous sommes toujours bien aimés, mais à une condition. Demain, avant le divorce, on signe la vente chez le notaire. Pas la peine, ajoute-t-il en riant, que tu fasses une visite. Tu la connais, la baraque. Simplement, j'embarque tous les meubles. À ce prix-là, tu auras les murs vides, mais tu te débrouilleras. Eh bien, c'est d'accord. Deux jours plus tard, la nouvelle propriétaire observe depuis le jardin le grand chambardement de tout ce que contient la maison. L'équipe de déménageurs démonte tout, ils embarquent tout, même les beaux rideaux avec les tringles. Paganini au piano, une étude de Johannes Brahms, une variation interprétée par Evelyne Brancard. C'est la fin de cet épisode numéro 90 de Vous l'avez bien connu. Je peux vous dire que les deux soldats de 14-18 ne se sont jamais devenus amis. Et s'ils se sont revus après le mariage de leurs enfants, c'était juste à l'occasion d'un enterrement. Et pour la deuxième histoire, n'oubliez pas que la vengeance est un plat qui se mange froid. Vous pouvez retrouver toutes mes histoires sur mon blog AFP Ambroise Fiction Presse. Voilà, la semaine prochaine, nous parlerons du menuisier qui a fabriqué le lit pour De Gaulle quand il est venu en Alsace. Et nous parlerons d'une vieille dame qui va fêter ses 100 ans. Et comme elle a changé 4 fois de nationalité, elle ne sait plus très bien, Madame Jacqueline, si elle est française et allemande. Vous l'avez bien connue tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli et mon nom est Ambroise Perrin.
Two fellows meet, like you and I. No connection between them whatsoever.